Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Et à la une de l'actualité de ce mardi, la fin de toutes les restrictions sanitaires en Australie pour bientôt. C'est en tout cas ce que souhaite Scott Morrison, vous l'entendrez. L'Australie qui va construire sa propre usine de fabrication de vaccins. Combien, quand et avec qui? Réponse dans ce journal. Première nuit en prison pour un ancien ministre de l'Intérieur français. Et enfin, une nouvelle étape symbolique dans l'organisation des JO 2024. La cérémonie d'ouverture ne se fera pas dans un stade comme c'est le cas d'ordinaire. Mais alors où? On vous dit tout sur SBS French. On vous le disait en titre, un pas de plus vers le retour à une vie normale, une vie non dirigée par l'épidémie de Covid-19. C'est la direction que semble vouloir prendre Scott Morrison, le Premier ministre qui appelle les dirigeants des États à mettre fin à toute restriction liée au virus.
We live in an age of disruption. Yet it's also been a time of uncommon clarity. While necessary, it is not normal for government to tell Australians where we can go and can't go, who we can and can't invite into our homes. Australians don't like it. I don't like it. Yet for the greater good, we have done it.
Alors, cette annonce n'intervient pas à n'importe quel moment, hein, il faut le préciser. Le Premier ministre s'exprimait à Sydney pour présenter sa feuille de route en vue de sa réélection. Deux autres annonces importantes à souligner. D'abord, celle du Premier ministre du Western Australia, Mark McGowan, de rouvrir ses frontières le 5 février prochain. Et également, sachez que les détenteurs de visa pourront dès demain entrer librement dans le territoire sans avoir à en faire la demande et sans avoir à effectuer de quarantaine. Cette annonce n'est pas nouvelle, mais elle avait été reportée au 15 décembre à cause de la propagation du variant Omicron. Alors, ouverture des frontières, reprise d'une vie normale, autant d'informations qui donnent de l'espoir et le sourire bien entendu, mais le virus fait toujours rage dans le monde et en Australie. Si on regarde de plus près les chiffres d'aujourd'hui, 1189 nouvelles infections dans le Victoria, 6 personnes sont décédées, largement moindre mais notons-le tout de même, 4 nouveaux cas dans le Queensland. Et la hausse se poursuit en Nouvelle-Galles du Sud, 804 infections ces dernières 24 heures. Le ministre de la Santé, Brad Hazard, met en garde les personnes non vaccinées.
There's a very strong message here for the community, and that is COVID has not gone away. So take it very seriously and get the booster shot. I'm very concerned that not enough people are actually understanding the benefit of getting the booster. A third shot of vaccine is going to make all the difference. Obviously, we will look at all options as we proceed, but at the moment, our government here in New South Wales is very keen to get us all back to normality, to our previous life. But our previous life is best served by people being vaccinated.
Et en parlant de vaccins, l'Australie vient d'annoncer la construction d'une usine de fabrication de vaccins à ARN messager afin de se protéger contre de futures épidémies. Ce bâtiment va sortir de terre dans le Victoria et sera le fruit d'un partenariat à 2 milliards de dollars entre le gouvernement fédéral, les États et Moderna. 100 millions de vaccins pourraient ainsi être fabriqués chaque année à partir de 2024 directement sur le sol australien. De quoi ravir le Premier ministre, on écoute à nouveau Scott Morrison.
To keep Australians safe and to protect their health, not just against COVID, but against the many other communicable diseases. It's about future-proofing. It's a great partnership for the country and our region, where we will be a real powerhouse in this area.
Et toujours à propos de l'épidémie de Covid-19, mais à des milliers de kilomètres de là, le Royaume-Uni met les bouchées doubles pour que tous les adultes puissent recevoir une troisième dose de vaccin d'ici à la fin du mois. La Grande-Bretagne, qui est officiellement le premier pays au monde, a annoncé un premier décès dû au variant Omicron. Le Premier ministre Boris Johnson craignant un raz-de-marée d'infections, je cite, l'exécutif britannique a avancé d'un mois l'objectif du rappel pour tous les plus de 18 ans. En France et à 10 jours de Noël, le Conseil scientifique met également en garde contre ce nouveau variant. Dans son dernier avis, il explique qu'Omicron semble se répandre extrêmement rapidement et qu'il pourrait connaître une forte croissance dans les semaines à venir. 15 millions de Français ont pour l'heure reçu leur troisième dose de vaccin. Et c'est malheureusement dans ce contexte que le Mont Valérien a été vandalisé en début de semaine. Une inscription anti-passe sanitaire avec les deux S, dessinée en référence au sigle SS, a été découverte sur ce monument érigé en périphérie de Paris en mémoire aux résistants et aux combattants français de la Seconde Guerre mondiale. Le président français Emmanuel Macron a réagi, on l'écoute.
Je le condamne avec la plus grande force compte tenu de ce que représente ce lieu, son histoire, cette crypte qui... Le 11 novembre dernier a vu le corps du dernier compagnon de l'Ordre de la Libération arriver conformément à ce que justement le général de Gaulle avait voulu. Je pense que souiller ce lieu comme cela a été fait est indigne. Et aucun combat ne justifie cela. Aucun. Car c'est s'attaquer à la mémoire de nos combattants, c'est s'attaquer à notre histoire et c'est tout confondre au fond. Qui plus est avec les références implicites qu'il y avait. C'est de la bêtise à l'état pur, ajoutée à une forme de profanation. Donc je le condamne à tous égards.
Toujours en Europe, direction la Russie, le pays fait également face à une augmentation constante du nombre de cas de Covid-19. En moyenne, plus de 30 000 nouvelles infections par jour sur une semaine. 75 000 personnes sont décédées en octobre. C'était le mois le plus meurtrier en Russie depuis le début de l'épidémie. Eh bien, un projet de loi devait rendre obligatoire le pass sanitaire dès le mois de février, en vue d'enrayer cette épidémie. Mais rebondissement, le Kremlin vient d'annoncer son retrait. La correspondance d'Anissa El-Jabri.
Le pass sanitaire, 85 régions russes l'ont déjà mis en place, mais à géométrie variable. Dans la capitale, les QR codes sont requis uniquement pour les événements publics de plus de 500 personnes, les musées, les théâtres et les cinémas. Au Tatarstan, dans le centre du pays, en revanche, c'est une obligation pour les transports publics. Plus de 1000 personnes ont été refusées des bus urbains dès le premier jour de l'application, le 22 novembre dernier. Les restrictions sanitaires suscitent régulièrement des manifestations dans tout le pays. C'était encore le cas hier, tout à l'est, à Novosibirsk, mais aussi dans le centre, à Yekaterinbourg. L'autre raison qui a fait pencher la balance en faveur de ce retrait du projet de loi, c'est l'économie, tout le secteur du transport déjà très atteint, évoquant de lourdes pertes à venir. Enfin, si la vaccination plafonne toujours, 40% seulement des Russes le sont, le rejet diminue. 36% de la population y est aujourd'hui opposée, contre 50% en septembre et 61% en avril dernier.
On reste en Russie et on parle de cette colère de l'Union européenne. Les ministres européens des Affaires étrangères ont adopté une liste de sanctions à l'encontre de la société russe Wagner, qui emploie des mercenaires dans des pays en guerre au profit de Moscou. Alors jusque-là, rien d'anormal, mais l'UE accuse ces mercenaires d'exactions, de violations des droits de l'homme dans les pays étrangers où ils interviennent. Conséquence, les avoirs en Europe des dirigeants de Wagner ont été gelés, leur collaboration avec des résidents ou des entreprises européennes interdites. Pierre Benazé pour Radio France Internationale.
Parmi les 8 membres du groupe Wagner sanctionnés par l'Union européenne figurent Dmitri Utkin, ancien officier supérieur des forces spéciales russes Spetsnaz et fondateur du groupe Wagner. Sur la liste européenne figure aussi, en Centrafrique, Valéry Zakharov, conseiller du président Touadéra pour la sécurité intérieure et, je cite, ancien membre du FSB, les services russes de sécurité de l'État. Toujours selon la notice du journal officiel de l'Union européenne, Valéry Zakharov est responsable de graves atteintes aux droits de l'homme commises par le groupe Wagner en République centrafricaine, dont des exécutions et assassinats extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires. De manière générale, l'Union estime que dans de multiples zones de conflit à travers le monde, les mercenaires de Wagner alimentent la violence, intimident les populations civiles et pillent les ressources naturelles. Les personnes ciblées ce lundi par l'Europe le sont pour des exactions commises en Libye, Ukraine, Syrie et Centrafrique. Mais le but de l'Union est de frapper Wagner pour toutes ses activités, y compris pour la déstabilisation au Mozambique ou au Sahel.
Retour en France et c'est une première pour un ancien ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, 76 ans, passe actuellement sa première nuit derrière les barreaux. L'ancien bas droit de Nicolas Sarkozy a été incarcéré à la prison parisienne de la Santé dans l'affaire des primes en liquide du ministère de l'Intérieur pour ne pas avoir respecté ses obligations judiciaires. Il avait été condamné en appel à 2 ans d'emprisonnement avec sursis probatoire et 75 000 euros d'amende. Pourquoi est-il cette nuit en prison ? Stéphane Duguay.
Claude Guéant ne rembourse pas assez vite ses dettes, c'est l'avis du parquet de Paris. En 2019, l'ancien ministre est définitivement condamné. 2 ans de prison, dont 1 an ferme. S'ajoute à cette peine une amende et surtout le remboursement avec ses co-accusés des 210 000 euros détournés. Claude Guéant avait échappé à la prison. Il reversait à l'État 3 000 euros par mois prélevés sur sa retraite. Mais en novembre, le parquet de Paris fait une découverte. L'ancien secrétaire général de l'Élysée a vendu de l'or, une montre et a récupéré de l'argent d'une assurance vie. Le constat est clair, il aurait pu rembourser plus d'argent et plus tôt. La sanction tombe, fin de sa liberté conditionnelle, d'une partie de la peine avec sursis, il doit aller en prison. Claude Guéant avait détourné de l'argent du ministère de l'Intérieur, dirigé à l'époque par Nicolas Sarkozy. Il ponctionnait 10 000 euros par mois, en gardait la moitié, le reste était donné à ses collaborateurs. L'avocat de Claude Guéant va demander un aménagement de la peine de son client, qui aura 77 ans en janvier.
Et puis justice toujours, le nageur Yannick Agnel est libre mais placé sous contrôle judiciaire. Le double champion olympique français a été mis en examen pour viol et agression sexuelle sur mineur de 15 ans. L'implaignante est la fille de son entraîneur, elle était âgée de 13 ans au moment des faits en 2016. Des faits que Yannick Agnel a reconnus selon la procureure de la République de Mulhouse, Edwige Roux-Morisseau.
Yannick Agnel reconnaît la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Il précise que pour lui... n'avait pas en tout cas le sentiment qu'il y a eu contrainte. Si les faits sont effectivement constitutifs de viol ou d'agression sexuelle, c'est parce qu'il existe une différence d'âge importante entre les 13 ans, qui était l'âge de la jeune victime, et les 24 ans de Yannick Agnel au moment des faits qu'il reconnaît, hein, je le reprécise, en tout cas matériellement. En ce qui concerne les faits de viol, il a pour certains d'entre eux un problème, j'allais dire, de souvenir, mais qui peuvent très bien après revenir au fil de l'information judiciaire. Mais en tout cas, les faits sont reconnus.
C'était Edwige Roux-Morisseau, la procureure de la République de Mulhouse. Et sachez que la Fédération française de natation a annoncé vouloir se constituer partie civile. Un mot de sport et un pas de plus vers les Jeux Olympiques d'été qui se tiendront à Paris en 2024. Le comité d'organisation a validé les grandes lignes de la cérémonie d'ouverture, un concept inédit et ambitieux, puisque cette cérémonie n'aura pas lieu dans un stade comme à l'accoutumée, mais sur la scène, devant plus de 600 000 téléspectateurs. Écoutez la joie de Tony Estanguet, le président de Paris 2024.
C'est un grand marqueur des Jeux, plus d'un milliard de personnes vont regarder ce moment-là. On a envie de révéler le meilleur de notre pays, de notre capitale. La scène nous offre des possibilités infinies d'expression créative. C'est une vraie rupture, c'est la première fois qu'une cérémonie d'ouverture sera aussi accessible à des centaines de milliers de personnes, dont la majorité seront des accès gratuits sur les quais de Seine, sur 6 km de long, d'est en ouest. On va quelque part s'appuyer sur un décor absolument incroyable pour faire passer des messages aussi très forts autour des valeurs de la France, mettre les athlètes aussi au cœur de ce dispositif avec la volonté qu'ils soient les acteurs de ces Jeux dès le début de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. C'était important pour nous de leur offrir à ces 10 500 athlètes des 206 pays la meilleure expérience possible parce que quelque part si les athlètes sont ravis, ils vont ravir aussi les millions de personnes qui sont là pour les supporter et pour partager un moment d'exception avec eux.
Retour en Australie et le Royal Automobile Club du Victoria appelle les habitants à ne pas mettre leur vélo au garage, même si la vie reprend après 2 ans de torpeur due au Covid-19. D'après une étude de We Ride Australia, plus de 4 millions de personnes ont acheté des produits liés au cyclisme l'an passé, dont, accrochez-vous, 1 700 000 vélos, c'est énorme.
There were 34,000 full-time jobs that were in and around bike riding in the past year. In addition, that contributed to over $6.3 billion revenue towards the overall Australian economy.
Elisabeth Kim du Royal Automobile Club du Victoria. Alors le reste de l'actualité sportive, c'est dans un instant avec le journal de Christophe Mallet, mais d'abord un point sur votre météo. Il fera du soleil et 25 degrés à Perth, 27 degrés à Adélaïde, 22 degrés nuageux à Melbourne, la même à Hobart avec 21 degrés. À Canberra, il risque d'y avoir de la pluie, mais 29 degrés. Des conditions similaires à Sydney, 25 degrés. Grand soleil à Brisbane, 31 degrés. 34 degrés à Cairns. Et enfin nuageux mais 35 degrés à Darwin. On vous rappelle les grands titres de l'actualité. Vers le retour à une vie normale en Australie, Scott Morrison appelle les premiers ministres de chaque État à mettre fin aux dernières restrictions. Une usine de fabrication de vaccins à ARN messager va voir le jour dans le Victoria. Et enfin, la cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024 prend forme. Elle se déroulera sur la Seine et non dans un stade, devant 600 000 spectateurs.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/SBS French.